Bonjour, c'est François Langlais. Bienvenue dans le podcast hebdomadaire de Langlais Co.
Bonjour à tous, c'est Catherine Mangin. Chaque semaine, je dialogue avec François sur les mutations, les évolutions qui résultent de la crise du coronavirus, afin de mieux comprendre comment l'économie s'adapte au fil de la pandémie. La semaine dernière a été très rude pour les grandes entreprises pétrolières de part et d'autre de l'Atlantique, François.
C'est vrai, incroyable coïncidence, de trois événements qui se sont produits le même jour, le mercredi 26 mai. Tout d'abord, ExxonMobil, c'est une entreprise centenaire, le numéro un mondial du secteur pétrolier, qui se voit imposer lors de son assemblée générale. Elle rassemble ses actionnaires une fois par an, et c'est toujours au printemps. Elle se voit imposer la nomination de deux administrateurs par des activistes du climat. Deux personnes qui vont donc siéger au conseil d'administration, l'organe de direction de l'entreprise, et piloter la reconversion de l'industriel vers les énergies propres. C'est tout à fait inattendu. Tout ça a été déterminé en tout cas par un fonds activiste, c'est-à-dire un groupe de petits investisseurs qui avaient acheté des actions Exxon pour une valeur de 50 millions de dollars. C'est vraiment trois fois rien quand on compare au capital de l'entreprise qui est de l'ordre de 250 milliards. Mais ils ont proposé une résolution qui a été approuvée par les autres actionnaires. Le même jour, c'est Chevron, c'est une autre compagnie pétrolière américaine dont les actionnaires décidaient de réduire de façon très significative les émissions de carbone. Et en Europe, encore plus spectaculaire, la décision d'un tribunal hollandais, c'est une cour régionale, la cour régionale de La Haye, qui n'a rien à voir avec le tribunal international, hein, c'est vraiment un organe hollandais qui a été saisi par les Amis de la Terre, et décision qui s'applique à Shell, là encore une major pétrolière anglo-néerlandaise cette fois-ci, et qui lui enjoint de diminuer ses émissions, encore une fois, mais beaucoup plus vite qu'elle ne comptait le faire. Le jugement impose à Shell de diminuer de 45% ses émissions de carbone par rapport à 2019 d'ici 2030, c'est vraiment bientôt, alors que l'entreprise avait bien sûr des plans pour faire ça, mais elle envisageait un terme beaucoup plus lointain, c'était 2050 pour être à zéro carbone net. Du coup, cette décision, elle devrait se traduire par une diminution significative de la production de Shell, à la fois en gaz et en pétrole, de l'ordre de 3% par an. Vous voyez que c'est tout à fait significatif. En quelques heures, ce mercredi 26 mai, c'est le modèle de la major pétrolière, qui était jusqu'ici, on pouvait le résumer par deux mots, toujours plus, qui a littéralement explosé sous la pression des actionnaires et de la justice. La force qui étant derrière ces deux-là étant évidemment les activistes de l'environnement, mais qui eux-mêmes s'appuient sur la montée des préoccupations environnementales dans l'opinion publique.
Alors, les patrons de ces entreprises n'étaient pas sur le point de se réveiller. Hein. Ils avaient déjà des plans pour se transformer, pour évoluer vers des énergies sans carbone, mais ça n'a pas suffi, visiblement.
Ça n'a pas suffi. En fait, c'est vrai que dans les déclarations, les rapports annuels, etc., il y avait des protestations de bonnes intentions en matière climatique. Alors, les activistes, qui sont quand même souvent un peu des extrémistes, hein, en tout cas, qui sont très, très vigilants sur ces questions, ne les croient pas. Et ce qui est nouveau, c'est que les investisseurs eux-mêmes, qui sont a priori plus neutres, qui n'ont pas forcément de convictions très fermes, eux aussi étaient de plus en plus sceptiques sur les professions de foi environnementales des grandes compagnies pétrolières. Et certaines comparaisons avaient même été faites avec l'industrie du tabac, c'est-à-dire une industrie de mauvaise foi qui fait le mal et qui sait qu'elle fait le mal et qui continue à faire le mal, c'est-à-dire des cyniques, quoi.
Donc en fait, on ne les croit jamais.
En tout cas, ils n'ont pas fait les efforts suffisants pour, disons, faire acte de contrition en quelque sorte. Et du coup, ça s'est cristallisé sur le calendrier de la diminution des émissions parce que justement, dans les rapports officiels, les calendriers étaient souvent assez détendus, hein, et ils se calaient sur des termes très, très lointains. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'argument juridique de la Cour de La Haye, puisque les juges se fondent sur... Enfin, on constate en tout cas une violation de l'obligation de respecter les droits de l'homme des populations qui sont affectées par le changement climatique. Et c'est au nom de ce principe qu'elle condamne Shell à changer de stratégie. C'est évidemment une décision qui pourrait constituer un précédent très important, non seulement en Europe, mais dans bien des endroits dans le monde. Jusqu'ici, la justice, elle a souvent eu maille à partir avec les pétrolières, hein, quand, lorsqu'il y a eu des dégâts environnementaux, des marées noires, des catastrophes. Mais c'était des choses qui étaient révolues, qui s'étaient déjà produites. Et il s'agissait de fixer le montant des indemnités, éventuellement des amendes, mais rien de plus, si je puis dire. Aujourd'hui, là, ça contraint la stratégie future de l'entreprise. Les juges se mettent en quelque sorte à la place du pilote de l'entreprise en disant voilà, c'est ça qu'il faut faire.
Bon, alors, est-ce que ça veut dire que maintenant, cette vague va toucher absolument toutes les compagnies dans le monde, François ?
Sans doute, ça va gagner. C'est au moins pour les entreprises cotées, parce que les entreprises cotées, elles ont des actionnaires qui sont soit des petits porteurs, soit des gros. Mais les gros eux-mêmes sont bien souvent des fonds qui eux-mêmes regroupent des petits. Donc, ils sont connectés avec l'opinion publique. C'est le cas même des fameux BlackRock, hein, qu'on stigmatise comme étant le grand méchant loup. BlackRock est aujourd'hui l'un des plus actifs en matière climatique. C'est le cas d'Amundi, l'équivalent français de BlackRock. Il y a en fait un réveil des actionnaires et des investisseurs sur les questions environnementales. Je dirais pas par bonne volonté, tout simplement parce qu'ils se disent, si on ne fait pas ça, eh bien les entreprises dans lesquelles on a investi, elles vont perdre leur valeur, elles vont être attaquées, et c'est la valeur de notre patrimoine qui va diminuer. En fait, aujourd'hui, c'est une force bien plus puissante pour la transformation des entreprises que la réglementation, ou au moins c'est une force qui complète et qui, en quelque sorte, renforce la réglementation émise par les gouvernements. Le problème, si on regarde les choses quand même froidement, c'est qu'une bonne moitié de la production mondiale de pétrole provient de sociétés pour partie publique, et notamment dans les pays émergents où l'État est actionnaire de référence et où l'entreprise a un statut stratégique. C'est le cas d'Aramco pour l'Arabie Saoudite, de Petrobras au Brésil, de la CNOOC ou de Sinopec en Chine. Ce sont des pays plus ou moins autoritaires, hein, plutôt plus que moins, au moins pour la Chine, pour l'Arabie Saoudite, où la société civile n'est pas très développée, les environnementalistes n'ont pas non plus une audience considérable. Donc ce sont les États qui font la loi, et ils sont d'autant plus enclins à résister à ces pressions qu'ils y voient une espèce de diktat de l'Occident qui voudrait imposer ses règles à tout le monde, alors que lui-même, l'Occident, il a pollué sans retenue pendant un bon siècle au moins. Et du coup, on peut craindre que justement cette pression ne soit pas aussi puissante dans ce monde-là qu'il l'est dans le monde occidental ou dans le monde développé.
Ça veut dire que ces fonds activistes, on ne les retrouve absolument pas dans l'univers des sociétés que vous avez citées, chinoises, brésiliennes, non?
Jusqu'ici, non. Ça viendra peut-être. Mais ici, ils s'attaquent à de la viande déjà attendrie, si je puis dire. Hein. C'est-à-dire là où ils savent qu'ils ont un relais politique, un relais avec les associations. C'est les Amis de la Terre qui ont déclenché le jugement néerlandais, ou bien un relais aussi, bien sûr, avec la justice, justement.
Et alors, notre compagnie nationale, notre major Total, est-elle aussi soumise à ces pressions pour se transformer ?
Oui, elle l'est tout autant. Alors, il faut dire que Total a géré probablement l'affaire un peu mieux que ses homologues. Parce que la transformation de Total, on peut considérer qu'elle n'est pas assez rapide, mais elle a été enclenchée il y a déjà longtemps par Christophe de Margerie, qui avait acheté une société d'énergie photovoltaïque qui s'appelait SunPower il y a déjà bien longtemps. Ça a été repris, développé, amplifié par Patrick Pouyanné, son successeur, et notamment l'investissement massif dans l'électricité. Total est devenu un acteur de l'électricité. Ce changement de stratégie, il est matérialisé ces jours derniers par un changement de nom. Hein. Total s'appelle maintenant Total Énergie. C'est bien fait pour signifier que l'entreprise n'est plus la même. Et d'ailleurs, il y a quelques mois, Total avait symboliquement quitté l'Association américaine des producteurs, qui est le lobby de Big Oil, comme on dit aux États-Unis, qui était très puissant aux États-Unis, très puissant sous Trump, qu'il est un peu moins sous Joe Biden. Donc Total était un petit peu en avance, c'était pas le seul. BP, British Petroleum, l'était déjà. Il y a déjà une quinzaine d'années qu'ils avaient changé leur slogan pour faire de BP Beyond Petroleum, au-delà du pétrole. Bon, quand on regardait dans les faits, c'était pas si avancé que ça, mais il n'y a pas si longtemps, Looney, qui est le patron de BP, au moment d'une grande manifestation d'environnementalistes contre BP, a demandé à rencontrer des manifestants, et il a passé plusieurs heures avec une manifestante pour essayer de comprendre un peu sa vision du monde, ce qu'elle voulait. C'est symbolique, hein, mais ça dénote quand même une sensibilité plus importante que ne pouvait l'avoir Exxon, qui s'en fichait un peu parce que le pétrole aux États-Unis, c'est l'industrie reine depuis 150 ans. Quoi. C'était moins le cas en Europe. Alors, Total, pour revenir à lui, a connu son Assemblée Générale la semaine dernière, au printemps toujours. La stratégie climat de la direction a été présentée aux actionnaires. Elle a été très mise en cause par les activistes, mais les actionnaires l'ont quand même approuvée au total à 92%. C'est énorme. Hein. Et justement, Exxon et Chevron n'ont pas du tout connu ce destin-là. Stratégie climat qui prévoit justement le basculement progressif de Total vers les énergies propres, ou décarbonées en tout cas, et avec notamment l'indexation de la rémunération des dirigeants sur des objectifs environnementaux. C'est nouveau. C'est pas pour ça que Total a été complètement laissé tranquille. Hein. Dans les derniers jours, l'entreprise a été mise en cause pour des raisons plutôt politiques, puisqu'elle a été contrainte de renoncer au montage fiscal qu'elle avait monté avec Chevron, justement, pour alimenter une partie des dirigeants birmans à partir de l'exploitation pétrolière de ces champs en Asie du Sud-Est qui sont parmi les plus nourris au monde. Donc on voit bien que l'entreprise est évidemment sous la loupe de tous les activistes du monde entier, à la fois sur le plan environnemental, mais aussi sur le plan politique.
Alors avec tous ces bouleversements, est-ce que le pétrole est en train de vivre ses derniers jours ou bien est-ce qu'on peut considérer que cette énergie fossile a encore de l'avenir aujourd'hui ?
C'est des derniers jours qui vont prendre longtemps. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se serait posé la question à l'époque du Club de Rome, au début des années 70. On aurait imaginé que nous quitterions le pétrole à cause du fait qu'il n'y en ait plus ou plus assez. C'était une ressource limitée et avec la croissance de la population mondiale, il était inévitable qu'on bute sur le mur de l'approvisionnement. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Parce que d'abord, les techniques d'exploration ont progressé de façon extraordinaire, dans des conditions environnementales parfois désastreuses. C'est les pétroles et les gaz de schiste, les sables bitumineux de l'Alberta au Canada, mais qui ont accru les réserves exploitables de façon considérable. Et Pouyanné cite souvent un mot du Cheikh Yamani, qui a été le ministre de l'énergie d'Arabie Saoudite, donc l'homme qui était au cœur du système pétrolier, qui disait « l'âge de pierre ne s'est pas arrêté faute de pierre et l'âge de pétrole ne s'arrêtera pas faute de pétrole ». C'est probable. C'est probable que la fin du pétrole soit déterminée justement par les contraintes environnementales et non pas par le manque de ressources. Comment ça peut se passer, à quel horizon ? Plus vite qu'on le pense, je crois. En fait, ce n'est pas linéaire, hein, ces choses-là. C'est-à-dire, on voit bien que la pandémie a été un accélérateur important et que ces événements dont on parle ne se seraient pas produits il y a 18 mois. C'est-à-dire que les activistes n'auraient pas eu le levier suffisant pour imposer. La justice n'aurait probablement pas osé imposer tout cela. C'est le cas aujourd'hui. Donc, il y a des phases d'accélération. Ce qu'on peut imaginer, c'est que la fin du pétrole n'aura pas le même calendrier partout et que des pays qui sont plus sensibles à cela, les nôtres, singulièrement en Europe. La Chine, il ne faut pas sous-estimer le fait que la société civile, malgré tout, est en train de monter en puissance avec les contraintes de la vie en ville qui sont de plus en plus pénibles, les épisodes de pollution, etc. Et puis un gouvernement autoritaire, c'est long à se mettre en marche, mais quand ça se décide, ça va vite. Donc les États-Unis, il y a un changement de cap spectaculaire avec Biden. Trump, évidemment, a joué le rôle de retardateur. Mais Biden, avec son grand plan d'infrastructure, là aussi, va probablement engager tout le secteur privé là-dedans. Donc, on peut penser que le monde développé, dans 10 ans, il est tout à fait possible qu'il n'y ait plus de voitures à moteur thermique dans nos grandes villes. Franchement, personnellement, je ne l'aurais pas parié il y a 2 ou 3 ans. C'est désormais plus qu'envisageable, c'est désormais assez vraisemblable. Et même le consommateur individuel, quand il prévoit d'acheter une voiture, il ne peut pas ne pas penser à ça, parce que 10 ans, pour un Français moyen, c'est quand même un horizon vraisemblable pour la durée d'une voiture. Hein. Et en revanche, dans certaines zones du monde, ça sera probablement beaucoup plus long, donc ça va être une extinction probablement progressive.
Vous pouvez retrouver cet épisode sur l'application RTL et sur toutes vos plateformes préférées.